Bonjour à tous et toutes et bienvenue pour notre première émission de 2024. Bienvenue sur Radio Pays d'Héro RPH Sud. 2024, nouvelle année qu'on vous souhaite excellente. Et pour démarrer, on vous propose une émission sur l'enfance pendant l'après-guerre au Japon. Cette période où ce thème a été décrit ou a servi de toile de fond à de très nombreux mangas. Et les années 50, 60 sont des périodes de reconstruction et les mangas qu'on vous propose s'inscrivent donc dans ces époques. Également jusqu'au début 70. Donc le Japon est en pleine expansion économique, mais ces histoires se passent dans un environnement rural, voilà, un peu le Japon d'avant. Et le premier, c'est une sacrée mamie. Et Jenny, vraiment merci beaucoup pour la découverte. Ce premier tome, et c'est aussi le premier tome d'une série, ce premier tome et cette série sont vraiment gabai. C'est mon nouveau mot japonais de l'année. Ça sera mon mot pour l'année, ça veut dire sacrément génial.
Ouais, je sais pas si c'est du patois japonais. Je demanderai à Sakiko qu'elle nous précise ça. Bonjour à tous, bonne année. Donc Sacré Mamie, c'est l'histoire d'un petit garçon de 7 ans que sa mère amène chez sa grand-mère à la campagne. La campagne qui s'appelle Saga, c'est une campagne autour de Hiroshima. Il est convenu entre la mère et la grand-mère qu'il va y rester, mais ça, il ne le sait pas. Ce petit garçon, c'est Shimada Yoshichi. C'est un comique et un homme de télévision né le 2 octobre 1950 à Hiroshima. Ça, c'est son nom de scène, parce qu'en fait, il a son vrai nom, c'est le nom de ce petit garçon. Il s'appelle Akihiro Tokunaga. Voilà.
Ok, et la scène dont tu parles, là, il est convenu entre la mère et la grand-mère, est assez dingue. On vous laisse la découvrir. Donc, lui, il est né après les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki.
Oui, il venait à peine de naître que son père allait mourir des conséquences de la bombe atomique. Sa mère a des grosses difficultés à élever toute seule deux garçons, puisqu'il a un grand frère à la ville. Donc, dès l'âge de 7 ans et jusqu'à sa sortie du collège, Shimada s'installera à Saga. Comme je vous disais, c'est la campagne proche d'Hiroshima. Pour y vivre une vie simple, dans une pauvreté heureuse et aux côtés de cette grand-mère débrouillarde et philosophe.
Oui, c'est bien en lien avec les mangas dont on parle aujourd'hui.
C'est un adulte dans les années 80, ce Shimada, et il devient célèbre dans un duo de comiques intitulé les BNB. C'est des pionniers de la comédie comique japonaise. En 93, sous les conseils de Kitano Takeshi, Shimada commence à écrire un roman justement sur son enfance qu'il va intituler Une enfance à la campagne. Ça lui vaudra un énorme succès. Il a été vendu et réimprimé à de nombreuses reprises pour 4 millions d'exemplaires en tout, et il a été adapté sur plein de supports, drama, films, pièces de théâtre, jeux vidéo et même justement manga.
Donc Une sacrée mamie a donc d'abord été un récit à succès, complètement mérité, et c'est surtout donc une histoire vraie. Et avant de poursuivre, est-ce qu'on peut faire un point sur une des figures majeures de la culture japonaise que tu viens de nous citer? Oui. Tout le monde ne connaît pas Takeshi Kitano, enfin en tout cas en France, nous on le connaît comme ça, Takeshi Kitano, ou Kitano Takeshi, Jenny, parce que tu me confirmes qu'on dit le nom de famille en premier au Japon et ce n'est pas, c'est pas impoli en fait.
Non, c'est vraiment la règle, hein. Le nom de famille se dit en premier avant le prénom. Il est fréquent de ne connaître les gens que par leur nom de famille, on ne les appelle que comme ça, et de passer au prénom, même de savoir le prénom de quelqu'un, c'est une proximité, et même d'appeler quelqu'un par un prénom, c'est vraiment de l'intimité. Alors, pour revenir à Kitano, en Europe, on le connaît d'abord en tant qu'acteur, parce qu'on l'a vu dans le film de 83 de Oshima Nagisa, qui s'appelle Furio, aux côtés de Bowie et de Sakamoto Ryuichi. Puis en tant que réalisateur dans les années 80, dès 89. Il a réalisé en tout 19 films en 34 ans. Le prochain sort bientôt au cinéma, il s'intitule Kubi. Je vais vous en citer quelques-uns parmi mes préférés. Il y a eu Kids Return, Anabi, qui a eu le meilleur film à la Mostra de Venise en 97, Zatoichi et L'été de Kikujiro.
Alors moi je suis très très fan de Kitano Takeshi. En fait c'est ma grand-mère, également une sacrée mamie, ou plutôt une sacrée mamée, puisque c'était une dame du sud, qui m'a fait découvrir Anabi, un film merveilleux qui veut dire je crois le feu d'artifice. Et c'était marrant parce que non, Kitano c'est plutôt un gars hyper musclé, bien tanké, et c'était un film avec dans mon souvenir une rencontre avec un enfant, un jeune, Et il y avait des scènes très belles entre le décalage entre le physique de Kitano et cet enfant, en fait.
Et c'est pas Kikujiro, l'été de Kikujiro, c'est dans Hanabi, je me souviens plus.
Mais pour moi, c'est dans Hanabi.
C'est dans Hanabi.
Bon, on reverra. On vous invite à aller regarder ou alors à nous dire si on s'est trompé.
Deux.
Mais de toute façon, vous pouvez voir tous les films de Kitano, ça sera un bon moment. Et bon, ceci étant, Kitano Takeshi est connu pour d'autres raisons au Japon.
Oui, alors en 70, c'est dans les années 70-72, il perce en tant que comique de manzai. Il a un duo avec un collaborateur qui s'appelle Nilo Kaneko et il forme le duo des Two Beats. On appelle ça du manzai.
Donc c'est un peu du stand-up à deux, le manzai, une sorte de clown triste et de clown un peu foufou qui se répondent.
Oui, c'est un style de comédie typiquement japonaise, ça c'est très ancien, et c'est un duo de comédiens qui se font des blagues et des rythmes, vraiment un rythme de mitraillette, il faut suivre. Il y en a un qui incarne un personnage sérieux, urbain, et l'autre beaucoup moins, c'est un peu il incarne le bonnet de la campagne. Donc le comique de ce duo repose sur des quiproquos et puis des jeux de mots. Si vous êtes curieux de voir ce que cela peut donner en sous-titré français, je vous conseille la série de Netflix qui est diffusée en ce moment, qui s'appelle Spark.
Donc Spark, étincelle en français. Donc Kitano commence à se faire connaître en 72, c'était dans les cabarets en tant que comédien, mais après il passe à la télé et c'est un succès immédiat.
Oui, on le demande partout, il prend le nom de Beat Takeshi qu'il a récupéré de son duo de comique. Il est vraiment partout, sur tous les supports, dans tous les médias, mais toujours avec une façon de faire rire, un style un peu irrévérencieux. Il fait sauter beaucoup de tabous au Japon. Il le dit lui-même qu'il aime être le mauvais génie d'un pays trop rigide. Il est aussi écrivain et peintre. Moi j'ai vu une expo à la Fondation Cartier, enfin elle avait été faite à la Fondation Cartier en 2010, et moi je l'ai revue en passant à Tokyo, enfin je n'y vais pas tous les 4 matins, mais j'étais à Tokyo en 2012 et j'ai pu la voir avec les cartels en français. Toujours sur Netflix, on peut voir un film qui est basé sur son livre autobiographique qui s'appelle Asakusa Kid, et qui parle de ses tout débuts.
Donc c'est Kitano qui a donné l'idée à Shimada Yoshiishi d'écrire un livre sur son enfance. Donc revenons à Sacré Mamie, que j'ai adoré. Il date de quand ?
Alors, apparemment, il est sorti en 2006 au Japon et en France. On a édité juste derrière. Il était sorti à la base en 11 tomes pour cette première édition. Il a été longtemps indisponible en librairie. Je pense que les fans ont fait qu'ils viennent juste de le rééditer en 2022 en volume double. Il y en a 5 maintenant. À l'époque, il y en avait 11. Et moi, je me suis littéralement ruinée pour avoir les derniers tomes.
Alors ce petit garçon, élevé à la ville par sa mère en compagnie de son grand frère, se retrouve donc à la campagne chez une grand-mère démunie sur le plan matériel, mais pleine de ressources, de débrouillardise, d'astuces pour rendre le quotidien moins dur. Et c'est un personnage extraordinaire. Elle vit dans un grand dénuement matériel, mais elle transforme tout en aventure. Et quand Shimada réalise l'ampleur de leur pauvreté, en fait elle lui dit « Tu sais mon garçon, les hommes sont heureux ou pauvres, suivant leur façon de penser et l'état de leur cœur. » Alors j'ai souvent ri en le lisant et j'ai même failli pleurer, j'étais complètement dedans.
Ouais, c'est une mamie qui utilise du storytelling un petit peu pour faire passer des trucs. Et surtout les conditions très dures dans lesquelles ils vivent. Il n'y a pas de chauffage, il y en a très peu. Pas de nourriture, enfin en très petite quantité. Et parfois il n'a rien à manger. Il faut qu'il aille se coucher comme ça. On lui raccommode ses vêtements qui sont rapiécés. Mais c'est toujours fait avec beaucoup de joie, de découverte. Il y a de la bienveillance. Et on ressort toujours de cette lecture avec le cœur léger.
Oui, leur quotidien et les aventures de ce petit garçon de Shimada Yoshiishi à la campagne, à Saga, est décrit sans misérabilisme. Ça parle beaucoup de la découverte de soi, du regard qu'on pose sur soi-même et sur les autres. Et ça pose la question, bien sûr, de la véritable richesse, et c'est sans mièvrerie. Donc on vous laisse découvrir les astuces que ces deux-là, la grand-mère et le petit-fils, déploient pour améliorer leur quotidien, et les nombreux et attachants personnages secondaires. C'est un très beau livre sur l'enfance, sur le fait de grandir, sur l'amitié. Et il y a un côté guerre des boutons. Et le dessin de Jenny, parle-nous du dessinateur, qui n'est pas l'auteur du scénario, donc de l'histoire, du dessinateur et de son style graphique qui rend bien l'ambiance et la vie de cette campagne japonaise des années 50.
Oui, alors Sacré Mamie, moi je trouve qu'il doit vraiment beaucoup ce succès-là au trait du dessinateur Ishikawa Saburo, il s'appelle, c'est un homme. Je trouve que ça va vraiment avec la douceur de l'histoire. C'est un trait assez simple mais qui maîtrise bien. Ça donne la part belle aux expressions des personnages, et puis il y a une véritable richesse dans les décors, dans la nature, voilà, tout ça avec un style un peu vintage, mais c'est vraiment très très plaisant à lire et à voir.
Est-ce que tu aurais d'autres titres de ce mangaka, de Ishikawa Saburo,
oui,
à nous recommander?
Ah oui, alors les éditions Black Box, éditions françaises, là, sont vraiment fans de Ishikawa. Ils ont sorti pas mal de titres de lui, on peut en trouver plein. Je ne sais pas si elles sont toutes éditées, mais il y en a une que j'aime beaucoup, qui est tirée d'une histoire autobiographique également. C'est un ancien médecin qui est au scénario, et je vous le donne en mille, c'est l'histoire d'un médecin de campagne qui préfère pêcher que d'ouvrir son cabinet, et les petites histoires qui vont se développer autour des villages. Voilà. Ça s'appelle Fermé pour la journée. C'est un bonheur à lire. C'est plutôt à partir de 16 ans. Il n'y a rien de graveleux, mais ça parle de sexe parfois. Voilà.
Ok. C'est le moment de vous proposer, avant que je... Une quinte de tout. Avec une quinte de tout, je n'explose le micro. C'est le moment de vous proposer notre premier morceau en lien avec ce manga. On vous propose Computer Oba-chan. Oba-chan, ça veut dire grand-mère, tu me disais, Jenny. À ne pas confondre avec Oba-chan, qui veut dire la tante. La tante... La femme de l'oncle, pas la tante,
de camping. De camping. Non. Voilà, alors Computer Oba-chan, c'est littéralement la grand-mère ordinateur. Ce morceau a été produit par le très grand Ryuichi Sakamoto, on en parlait plus tôt avec le film Furio. C'était en 1981, c'était au début de sa carrière. C'était l'un des thèmes d'une émission de radio pour enfants qui s'appelait Sound Street. Elle était diffusée sur la radio NHK. La NHK, c'est le groupe de médias publics japonais, c'est le Nippon Hoso Kyokai, littéralement compagnie de diffusion du Japon. Voilà.
Oui, c'est un morceau assez précurseur, enfin un morceau assez pertinent, puisque l'auteur compare une grand-mère qui sait beaucoup de choses, donc comme la grand-mère de notre manga, et un ordinateur. Et c'est une opposition sympathique entre le vieux et l'ancien monde.
C'est ça, il compare l'ordinateur et son savoir encyclopédique à une grand-mère à qui on pourrait tout demander et qui nous donnerait la capitale de Hawaï, etc. Moi, je trouve que c'est assez prophétique parce qu'en 80, l'Internet grand public n'existait pas. Et donc, voilà, on va vous passer la version d'un groupe Tokyoid qui s'appelle Polysix, qui est bien plus péchu que l'original. Polysix, du coup, je vous dis, c'est une formation de Tokyo qui s'autoproclame groupe de Pogo Punk Technicolor. C'est parti.
Oba-chan wa mei
Bidi bidi. Après ce groupe de pogo punk Technicolor, on se retrouve pour notre second manga, qui est aussi une série un peu vintage. Elle prend place aussi à la fin des, enfin elle, elle prend place pardon à la fin des années 60, début 70, le passage à la télé couleur. Et mais elle a été créée dans les années 90 par une mangaka du nom de Ishiki Makoto. C'est une série de 5 tomes également et qui est éditée par Ki-Hoon. Et là aussi, on a le portrait d'un jeune garçon dans un Japon rural, également dans une famille pauvre, mais avec un twist fantastique.
Oui, alors cette série, ça s'appelle Anada, le garnement. Donc Anada est un garnement, comme nous le révèle le titre, mais vous n'avez pas idée de combien il peut être fatigant pour sa famille et ses voisins, tout son entourage, jusqu'à causer un accident qui l'envoie direct à l'hôpital, entre la vie et la mort. Un accident assez grave, parce que Anada ne peut rien, n'a peur de rien, en fait, il fait vraiment n'importe quoi.
Il a peur de rien, sauf d'un truc.
Il a peur d'un truc, c'est des fantômes.
Exactement.
Et figurez-vous, qu'est-ce qu'il arrive à voir à son réveil ?
Eh bien, à son réveil, après son accident, après son opération, il se trouve confronté à sa plus grande peur, il voit des fantômes. Et ce sont des fantômes qui viennent lui demander de les aider. Alors que lui, il n'en a rien à foutre des gens, a priori, Anada. Mais là, il se retrouve obligé à aider non seulement des gens, mais à aider des fantômes. Voilà, c'est des fantômes hauts en couleur. Et tout comme la famille de Anada. Et c'est justement ce qui fait le sel de ce manga. Tous les personnages sont... Voilà, c'est truculent, comme on dit. Il y a beaucoup d'humour. Chaque personnage est très bien brossé. Et l'autrice, avec ce dessin, elle a un dessin un peu old school, mais très expressif. Et on est dans le mouvement de leurs aventures. C'est très immersif.
Ouais, direct dans le premier tome, on a une intro hyper efficace, je trouve. On plonge rapidement dans le récit. On va découvrir tous ces personnages que tu citais, de sa famille, la mère, le père, le grand-père.
Comment il l'appelle ?
Il l'appelle la Groche, parce qu'elle est grosse et moche.
Voilà, la Groche. Sympa Anada.
Sympa Anada. Et du coup, bah, les défunts viennent lui demander de les aider et pour exaucer le dernier souhait. Et malgré cette thématique de la mort, il y a une humour et des expressions aussi drôlissimes des personnages qui rendent ce récit plein d'émotions. C'est assez enlevé, mais c'est jamais pesant et c'est surtout un titre extrêmement drôle. On rigole tout seul en le lisant.
Ouais, c'est super drôle parce que Anada, pour employer un mot un peu désuet, donc c'est un garnement. Et s'il y a une bêtise à faire, bah, il est là en fait. Il a envie de mettre le bazar et qu'on sache que c'est lui qui en est à l'origine. Chacune de ses missions, pour chacun de ses fantômes qui vient lui passer une commande en quelque sorte, chacune de ses missions donc, ou rencontre avec un fantôme, montre un aspect de sa personnalité à explorer. Un peu comme une phase de croissance en quelque sorte. C'est comme si on voyait le processus de maturation d'un jeune être humain. De façon très humoristique. Donc on vous conseille la lecture de cette série dès 10 ans, mais jusqu'à n'importe quel âge en fait, tant que vos yeux et vos zygomatiques fonctionnent. Et c'est clairement une série à partager en famille.
Oui, Anada, il a eu beaucoup, beaucoup de succès au Japon, au point d'être adapté, comme souvent les Japonais le font, en animé. On peut le trouver sur YouTube en japonais sous-titré en français. Il suffit sur YouTube de taper Anada le gardement. Il y a aussi un film en live action. Live action, c'est un film avec des acteurs. Lui, il est difficilement trouvable, mais aux images que j'ai pu voir, c'est pas une grosse perte. De cette autrice également, je vais répéter son nom, c'est Ishiki Makoto. Vous pouvez voir sur Netflix Le Piano dans la forêt. C'est une série animée adaptée de son dernier manga qui s'appelle Piano no Mori. Ça signifie plus précisément la forêt au piano. Mais ça, on ne l'a pas encore édité en France, peut-être un jour.
Ouais, et tu me disais également, Jenny, en préparant l'émission, qu'il y a un nombre incroyable de mangas ayant des enfants pour personnages principaux. Est-ce que tu aurais d'autres titres ou séries aussi enthousiasmantes qu'une Sacrée Mamie ou Anada à nous conseiller ?
Alors oui, il y en a beaucoup. Quartier Lointain, Le Journal de mon père de Taniguchi Jiro, que beaucoup de gens connaissent. C'est lui qui a un peu popularisé le manga au Japon, en France, avec Akira. On peut citer Akira aussi, qui est vraiment un manga avec des enfants.
Carrément.
Voilà. Il y a Crayon Shinchan.
J'adore Akira.
Oui. On fera une émission peut-être. Il y a Crayon Shinchan qui est un autre manga très très drôle avec un petit garçon qui fait plein de bêtises. Ça, je sais qu'il est disponible en France, mais en magasin peut-être plus.
Et en fait, quand tu disais que les mangas sont souvent adaptés en animé, Les dessinateurs, dessinatrices sont à nouveau mobilisés pour les animer.
Ah, ça doit dépendre des studios. Non, les studios d'animateurs sont indépendants. Je pense qu'ils doivent avoir un regard sur l'esthétique, mais je suis pas sûre que
qu'on les fasse travailler.
Il faudrait
se pencher là-dessus sur le droit des auteurs et des autrices au Japon. Et tu nous as cité quasiment que des histoires de garçons.
Il y a des histoires de filles. Les fans de Toriyama, l'auteur de Dragon Ball, connaissent forcément Alale. C'est la petite fille robot de son manga Dr. Slump. Là, en ce moment, il est disponible dans une version perfecte, magnifique. Les fans de DBZ ne trouveront pas leur compte. DBZ pour Dragon Ball Z. à réserver donc aux parents nostalgiques des années 80 et à l'humour qui va avec. Plus accessible pour le jeune public, je vous recommande Yotsubato, ça veut dire Yotsubae, bidule, machin, voilà.
Et la conjonction de coordination, le T.
Yotsubato, hein.
Et
oui, c'est ça. Et machin, et bidule, c'est ça. Le to en japonais, c'est pour lier deux personnes, c'est le et. Voilà, c'est l'histoire d'une petite fille qui vient de la campagne, elle vient s'installer avec son papa en ville, et à la découverte de son nouvel environnement, elle va faire des rencontres et des découvertes avec ses nouveaux voisins. C'est un chouette manga à lire à partir de 12 ans, mais je sais qu'il y a des gens bien plus âgés qui le lisent aussi.
Ok, donc nos deux mangas du jour s'inscrivent dans le Japon post-guerre, post-catastrophe nucléaire, et en mettant des enfants au cœur de l'intrigue, mais ça parle de catharsis surtout, en fait, de reconstruction, ça invite à rebondir. Les personnages principaux de ces livres, ces enfants, en fait, c'est le Japon en transition, et c'est ce qu'on vous souhaite pour cette nouvelle année, c'est d'être bien entouré et d'avoir du rebond, de la détente et de l'inventivité pour transformer ou envisager différemment les aléas de la vie. On vous souhaite une année gabaye, pour replacer mon adjectif favori de 2024, donc sacrément génial. Et d'ailleurs, Jenny, au Japon, il y a deux façons, ou deux temps plutôt, pour souhaiter la bonne année. Avant le 31 décembre, on dit Yoi Otoshiwo.
Et dès le 1er janvier, on dit Akemashite Omedeto Gozaimasu. Gozaimasu, on va être un petit peu plus poli.
Donc, Jenny et moi, on part au festival de bande dessinée d'Angoulême à la fin du mois. Donc, on vous laisse une chanson feel good, un morceau qui fait du bien, même s'il n'est pas de saison. Vous allez comprendre pourquoi avec Jenny. Mais c'est pas grave, avec le réchauffement climatique, tout est chamboulé.
Alors oui, voilà, je voulais ce morceau, ça faisait longtemps que je voulais le passer, et je voulais le placer dans l'émission sur l'enfance, parce que les paroles pour moi évoquent l'été, comme un gosse qui profite de son temps libre lors des vacances à la campagne. Le titre, c'est Natsunandesu, c'est l'été. C'est une balade lumineuse qui est bourrée d'onomatopées dont la langue japonaise est truffée, mais c'est surtout, hasard de la sélection, un morceau d'un autre membre du Yellow Magic Orchestra, Osono Harumi, Et ici, c'est son premier groupe, c'est Happy End. Ça a été composé en 71, juste 10 ans avant le computer Bachan de Sakamoto, qu'on a écouté tout à l'heure, espérant que cette balade va vous réchauffer un petit peu dans ce mois de janvier. Et on voulait vous dire
bonne année et à bientôt.
立ち止まる地べたにペタンとしゃがみ込み奴らがビー玉弾いてる銀銀ギラギラの太陽なんです銀銀ギラギラの 夏なんです鎮守の森は深緑舞い降りてきた静けさが古い茶屋の店先に誰かさんとぶら下がる 星つくつくの蝉の声です星つくつくの夏なんです日がさぐるぐる僕は退屈日が が咲くぐる僕は退屈駆け抜けると夏は通り雨と一緒に連れ立って行ってしまうのです。もんもんもこもこの入道雲です。もんもんもこもこの夏なんです。日が咲くぐる僕は退屈。日が咲くぐる僕は退屈。